Bonjour à tous, merci bien Philippe de m'avoir invité dans ce colloque et finalement pouvoir échanger et partager sur des thèmes aussi divers. Donc effectivement, moi je travaille à l'Institut Néel, donc je ne suis pas chimiste. Hein. L'Institut Néel, c'est un laboratoire de physique, c'est un des plus importants en nombre laboratoires de physique de Grenoble. Mais donc je travaille dans un département de matériaux et évidemment on retrouve un aspect très interdisciplinaire puisque finalement dans l'équipe on va aller à l'élaboration de certains matériaux jusqu'à leur caractérisation fine, toujours dans le but d'arriver à relier la structure de ces matériaux avec leurs propriétés. Donc je vais d'abord... Donc, ça redonne un peu avec ce qu'on a dit hier. Pour arriver à la caractérisation finalement très fine de ces matériaux, il va falloir inventer ou en tout cas adapter des outils, à la fois des instruments, mais aussi des méthodes. Et c'est un peu sous cet éclairage-là que je vais vous présenter l'exposé. Donc, une première partie où finalement, j'aurais pu appeler ça cristallographie des systèmes complexes. J'ai pris des applications dans le domaine du matériau du patrimoine et de la pharmacie. Alors, cristallographie, parce qu'on va voir que la plupart du temps, les matériaux qu'on va rencontrer dans ce contexte vont être des matériaux qui vont être bien cristallisés, des cristaux, des mélanges de cristaux. Donc, on verra que quand ces matériaux, par contre, deviennent complexes, il va falloir combiner des techniques en particulier de diffraction, dont on vient d'en entendre parler, pour arriver finalement à quand même donner une image de la structure du matériau qui nous intéresse. Dans une deuxième partie, j'irai vers des matériaux, on va voir, où on ne va plus avoir de cristaux, ou en tout cas, on va avoir des mélanges de phases cristallines et non cristallines. J'ai un collègue qui aime bien dire que finalement, de plus en plus, la cristallographie va vers finalement une science, enfin, on fait de la cristallographie sans cristal. J'essaierai de vous expliquer ça. Donc d'abord, pourquoi associer et pourquoi dans l'équipe, on regarde à la fois des matériaux qui vont être des matériaux du patrimoine culturel ou des solides pharmaceutiques, des médicaments. Parce que finalement, on va travailler un peu dans le même sens. On va toujours essayer de remonter à la structure de ces matériaux pour arriver à comprendre leurs propriétés. Si on va finalement faire de la chimie physique, si on veut mettre la frontière à ce niveau-là. Donc pour les pigments anciens, parce que finalement, dans ces matériaux du patrimoine, je m'intéresse essentiellement à des pigments. Et évidemment, la propriété qui va être recherchée, c'est les propriétés optiques, des problèmes de stabilité ou d'altération de la couleur. Donc, bien sûr, je vous renvoie au cours de Philippe, ici, qui a beaucoup développé ça dans sa série de cours ici au Collège de France et que je vous recommande évidemment vivement. Et puis, évidemment, côté solide pharmaceutique, donc les médicaments, la plupart des médicaments qu'on ingère sont aussi des cristaux. Et là, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est de remonter ou de vérifier l'activité pharmacologique de ces matériaux, c'est regarder des problèmes éventuellement de polymorphisme entre formes cristallines, évidemment dans un but de comprendre la stabilité, voire la solubilité de ces matériaux. Alors, dans tous les cas, finalement, on va retrouver des matériaux qui vont présenter les mêmes exigences de caractérisation. Ici, exigence, c'est qu'ils vont devoir être étudiés, j'ai mis tel quel. C'est-à-dire qu'on comprend bien, pour les matériaux du patrimoine culturel, qui ont souvent un aspect, qui sont précieux, il faut bien sûr essayer de garder, alors faire un micro-prélèvement, essayer de ne pas en faire, mais si on en fait un, le faire le plus petit possible, et de pouvoir conserver finalement le micro-prélèvement, le fragment, de manière intacte. Pour les médicaments, là, les solides pharmaceutiques, on imagine bien également qu'il ne faut pas modifier d'un point de vue structural, le matériau, puisque justement le médicament va être actif sous une forme cristalline, il va ne plus l'être sous une autre forme. Donc si on essaye de recristalliser le matériau pour mieux l'étudier, pour avoir une caractérisation plus fine, on risque de finalement modifier le matériau et ne plus le regarder tel qu'il est. La chance qu'on a, c'est que la plupart du temps, ces matériaux, c'est des matériaux dits polycristallins, c'est finalement des mélanges de cristaux qui vont correspondre à des poudres. Donc j'ai mis ici une image, donc c'est sous microscope optique, une poudre cosmétique qui date de l'Égypte ancienne, donc une poudre plutôt blanche ici, et on voit effectivement qu'elle se présente sous forme d'amas, mais de tout petits grains qui vont constituer, donc qui sont des tout petits cristaux, et finalement on va pouvoir regarder ces matériaux avec des techniques de diffraction sur poudre qui sont relativement bien établies depuis de nombreuses années. Donc finalement, on revient à des choses relativement classiques. L'avantage de ces techniques de diffraction sur poudre, donc comme l'a dit Philippe et Gérard Ferret, qui vont plutôt utiliser donc des faisceaux de rayons X, elles ont le gros avantage d'être non destructives, donc de ne pas détruire l'échantillon, et surtout pour les rayons X, de finalement demander des quantités de matière relativement limitées. Leur champ d'application est large, hein, donc première qui est à peu près évidente, c'est qu'on va être capable d'identifier dans le mélange les cristaux qui sont en présence, donc le pigment, de quoi il est constitué, est-ce que c'est de quoi, comment il est mélangé. On va pouvoir, et ça c'est important, quantifier hein, les différentes proportions des cristaux en présence, et on va même pouvoir regarder la microstructure de ces cristaux, c'est-à-dire essayer d'interpréter les défauts à l'intérieur de ces cristaux dus à un traitement thermique, à un broyage, etc. Donc on regarde ensuite les signaux de diffraction. Je vais vous donner un exemple tout de suite avec des affinements de profils de type Rydvel qui sont appliqués à bien d'autres matériaux que ceux que je vous présente aujourd'hui. Pour arriver à modéliser ces données de diffraction, le petit souci, c'est qu'il faut, Gérard Ferret en a donné un exemple, il faut bien sûr que le cristal soit connu. Contrairement à, donc, à l'avantage aussi pour ces techniques-là, c'est qu'on a des bases de données. Hein, toutes les cristaux, toutes les structures cristallines qui ont été découvertes sont répertoriées dans des bases de données qui sont très riches. Donc, contrairement par exemple à ce que nous a présenté hier Nicolas Garnier, on a cet avantage que les bases de données sont déjà faites. Mais parfois, et en particulier quand on regarde les matériaux complexes, on va trouver des cristaux qui n'ont pas encore été compris, élucidés. Donc dans ce cas-là, il faut aller jusqu'à des méthodes de détermination structurale. Mais c'est pareil, c'est des choses maintenant qu'on arrive à faire ces dernières années en ne faisant pas forcément pousser un cristal comme on devait le faire avant, mais on peut le faire directement aussi sur des poudres. Donc juste pour vous donner un exemple, justement, d'affinement de profil dit de type Rydvel, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va donc avoir enregistré un diagramme de diffraction sur poudre. Donc ça se présente comme ça. C'est un ensemble, en fait, vous voyez, de pics, on appelle ça des pics de Bragg. Ces pics de Bragg, en fait, une série, un cristal donné, va toujours avoir une carte d'identité qui va correspondre, en fait, à un certain nombre de positions qui s'est montré ici par les petits tics en vert qui sont attendues pour un cristal donné. Donc, on arrive à dire, si dans mon diagramme, j'ai effectivement un signal, les pics de Bragg à chacune de ces positions, je suis sûre que mon cristal est présent. Donc ça, on avait regardé une poudre cosmétique encore de l'Égypte ancienne, c'est un sujet qui me tient à cœur, et on voit qu'on avait réussi quand même à identifier ici un mélange très complexe de 6 cristaux, 6 phases cristallines différentes qui sont des composés de plomb, et on peut ensuite, donc en rouge, c'est les données observées, et en noir, vous voyez, en introduisant les différents cristaux en présence et en modifiant leurs proportions, on peut arriver donc à modéliser de manière avec un accord assez important le diagramme observé, le diagramme calculé qui apparaît ici en noir, ça c'est la différence entre les deux, et on peut donc arriver à donner la proportion des différentes phases cristallines présentes dans le mélange. Donc, lorsqu'on a des mélanges de cristaux, on a des techniques, les techniques de diffraction, qui conviennent bien pour arriver à décrire les mélanges. Le problème, c'est qu'effectivement, dès qu'on va regarder d'un peu plus près ces matériaux, on voit qu'on a des mélanges, on vient de le voir, très complexes, très hétérogènes. Donc là, c'est juste également une poudre cristalline qui est vue à fort grossissement avec un microscope électronique à balayage. Donc on reconnaît bien qu'il y a effectivement présence de cristaux, avec des facettes ici qui sont très bien marquées. Donc, c'est des cristaux de galène, de sulfure de plomb. Mais ces cristaux, ils sont pris, vous voyez, dans plein d'autres cristaux de beaucoup plus petite taille, d'autres formes, etc. Donc, finalement, on doit regarder des matériaux qui sont tout sauf des matériaux modèles, donc qui sont hétérogènes. Alors, hétérogènes, mélange, Aristote aurait, je pense, défini ça comme un mélange par juxtaposition. Finalement, on juxtapose des mélanges de cristaux, des mélanges de phases. Donc, ces phases vont être soit majeures, mineures, voire l'état de trace. Donc, c'est elles, parfois, qui vont être intéressantes à rechercher. On voit que les tailles de grains peuvent être complètement différentes. Et parfois, donc ça sera plutôt la deuxième partie de mon exposé, ça ne sera plus des cristaux. Donc, il va falloir adapter les outils qu'on a finalement à disposition. Donc, si je reste dans les techniques de diffraction, parce qu'après, effectivement, on l'a vu hier, on peut combiner des techniques d'analyse très différentes, je ne vais pas les lister là, il y en a énormément, Philippe l'a fait dans un de ses cours. Donc, si je reste dans les techniques de diffraction, on va pouvoir quand même, vous allez le voir avec l'exemple que je vais vous montrer, arriver à adapter la taille de la sonde utilisée, c'est-à-dire utiliser soit un faisceau large, millimétrique, on va dire, soit focalisé à l'échelle du micron, voire plus petit que le micron. On va aussi pouvoir jouer sur la nature du rayonnement, donc du faisceau de rayons X. Soit on va choisir qu'ils aient tous la même énergie, on parle d'un rayonnement monochromatique, soit on va travailler avec un spectre relativement large en énergie. On va pouvoir également jouer, choisir l'énergie des rayons X, voire des neutrons qu'on va pouvoir utiliser. Et ça, c'est vrai que ça a été tout l'intérêt des grands instruments, et en particulier des rayonnements synchrotrons, qui ont permis, évidemment, d'adaptabilité de ces techniques beaucoup plus faciles qu'en laboratoire. Mais maintenant, il y a un transfert aussi qui se fait, un retour vers le laboratoire, en particulier des micro-faisceaux qui deviennent maintenant relativement classiques et disponibles sur des diffractomètres commerciaux. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer donc la combinaison de techniques de diffraction, à la fois donc diffraction Laway, on va voir sur un cristal, et une diffraction sur poudre, donc je viens déjà vous en parler, sur un pigment, sur l'exemple d'un pigment qui est donc le bleu Maya, en tout cas sur les reproductions modernes ou les analogues qu'on peut faire de ce pigment bleu. Donc quelques mots sur ce pigment bleu Maya. Donc ça a été le travail de Catherine Dejoie qui a travaillé dans l'équipe qui a fait sa thèse il y a quelques années autour de ce pigment. Donc c'est un pigment bleu. Donc là j'ai mis l'exemple en fait d'un codex, donc d'un parchemin. Donc c'est toutes les zones ici, ce bleu très éclatant, mais on le trouve aussi sur des fresques murales. Donc il a été probablement vu comme son nom l'indique, inventé par les Mayas, et il a tout de suite attiré la curiosité des archéologues, puisqu'il a été retrouvé très bien conservé, en particulier dans des fresques murales de Chichen Itza, donc dans les années 1930, quand le site a été découvert. Les fresques murales peintes en bleu avaient quasiment été restées intactes, malgré des conditions de conservation assez extrêmes, la chaleur, l'humidité, etc. Donc dans les années 60, les archéologues ont demandé à ce qu'il y ait des analyses physico-chimiques qui soient faites sur ce matériau. Et on a pu, donc dès les années 60, montrer que c'était ni un pigment minéral, ni un pigment organique, mais c'était un pigment, ce qu'on appelle un hybride, donc qui associe à la fois une molécule organique, qui est ici l'indigo, qui justement donne la couleur bleue, avec une matrice inorganique qui est en fait une argile, très spécifique de la péninsule du Yucatan au Mexique, qui s'appelle la paligorskite. Alors c'est une argile qui n'est pas une argile lamellaire, comme le sont la plupart des argiles, mais c'est une argile dite fibreuse qui va présenter dans sa structure cristalline des tubes, des canaux tubulaires, dans lesquels va pouvoir entrer de l'eau, mais également des molécules organiques. Donc Catherine et puis d'autres équipes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce pigment-là, elle a montré, en combinant des études thermiques, structurales et spectroscopiques, qu'effectivement, on pouvait bien montrer qu'il y avait diffusion de la molécule d'indigo dans les canaux de cette matrice nanoporeuse, dans cette argile, et qu'on pouvait faire diffuser l'indigo dans ces canaux, justement en chauffant tout simplement les deux poudres, la poudre l'argile et de l'indigo. Donc une diffusion thermique solide-solide. Ensuite, comme dans tout pigment hybride, à la fois les deux constituants finalement vont gagner dans l'association. L'indigo, lui, va être stabilisé, en particulier, il va être préservé, sa couleur va être préservée de la lumière, de certaines attaques chimiques, puisque finalement, il va se retrouver finalement protégé dans sa matrice, sa coquille argileuse. Et l'argile, de la même manière, on peut montrer que l'indigo va venir se coincer dans certains endroits de la structure cristalline, et va finalement éviter que cette argile, sous l'effet de la chaleur, s'écroule, s'effondre. Donc ce pigment bleu Maya, vous voyez, avec une structure très particulière, finalement a inspiré dans l'équipe finalement l'élaboration, l'idée, la synthèse d'analogues, finalement. On s'est inspiré de la structure de ce pigment ancien pour aller vers des analogues. Alors on a repris la molécule d'indigo, mais on l'a mis non pas dans une argile, mais dans une zéolite, une silicalite. Donc j'ai ici essayé de représenter la structure cristalline justement de cette silicalite. Donc elle est constituée d'atomes de silicium et d'oxygène. Donc la structure cristalline apparaît ici en marron jaune. Et j'ai essayé de matérialiser justement les tubes en bleu, les canaux tubulaires qui existent dans cette structure silicalite et qui sont exactement, qui imitent finalement les tubes qu'on peut trouver dans l'argile. Là, il y a la molécule d'indigo et en fait, on voit qu'il y a un bon accord en dimension pour que cette molécule d'indigo, effectivement, puisse diffuser dans les canaux. Donc, on a comme ça réussi, enfin, Catherine a réussi à finalement synthétiser un pigment hybride, comme pour le bleu Maya, résistant à la lumière, à la température et à certaines attaques chimiques. Alors, effectivement, on a dit que quand on arrivait à faire rentrer l'indigo dans la zéolite, eh ben, on a justement le volume, hein, la maille cristalline, c'est-à-dire la boîte dans laquelle on va ranger les atomes, qui va changer. Et donc, ça va nous permettre d'avoir un traceur, un marqueur, pour savoir si l'indigo est bien rentré dans la matrice ou pas. Donc, on passe d'une maille qu'on dit monoclinique. Donc, il y a juste un angle ici qui va être différent à 90 degrés. On peut voir la boîte comme une boîte de chaussures. Donc là, la maille orthorhombique, c'est une boîte de chaussures tout à fait régulière. La maille monoclinique, c'est une boîte de chaussures déformée. Et on voit qu'on peut suivre, en fait, cet angle-là, dit alpha, pour voir si, effectivement, la zéolite est déformée ou pas par la présence d'indigo. Donc, on va voir qu'on s'en est servi pour bien voir qu'on avait bien de l'indigo qui était rentré dans la structure. Donc, cet analogue a pu être préparé sous forme de monocristaux, donc vous voyez relativement gros, et de poudre. Donc, je vais vous montrer comment on a justement, on a utilisé le fait qu'on avait pu synthétiser ce pigment à la fois sous monocristal et sur poudre, et comment on avait pu adapter la technique en fonction de la taille des cristaux pour aller jusqu'à une détermination précise de la structure de l'indigo, donc localiser l'indigo dans la structure zéolithique. Donc d'une part, je vous ai mis ici, alors, hein, on ne l'a pas rappelé tout à l'heure, mais je crois que Philippe l'avait fait dans un de ses cours, la loi qui régit les phénomènes de diffraction, donc d'interaction d'un rayonnement, un faisceau X avec la matière ordonnée, c'est la loi de Bragg, qui a été donc établie par Bragg, père et fils, je crois en 1912 ou 13, je ne sais plus exactement. Donc cette loi, c'est 2D sinus θ égale N lambda. Donc là, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le petit d. Quand petit d, c'est tous les essais, c'est ce qu'on appelle la distance interréticulaire, c'est-à-dire que, en fait, le but d'une expérience de diffraction, c'est d'arriver à regarder le cristal sous toutes ses orientations, déterminer toutes les distances entre plans cristallins qui existent, de manière à pouvoir redonner une image du cristal. Θ, c'est juste l'angle en fait que fait le faisceau, rayon X, par rapport à la surface du cristal, donc c'est l'orientation du cristal finalement. Et lambda, c'est, on l'a rappelé tout à l'heure, la longueur d'onde, l'énergie du rayonnement qu'on va utiliser. Donc côté diffraction de la Way, on va travailler avec un faisceau, un petit faisceau, qui fait à peu près 1 par 1 micron, qui va être évidemment, on le comprend bien, très bien adapté pour regarder les monocristaux, les cristaux qu'on a réussi à faire pousser. Donc finalement, on a une sonde qui a la taille du cristal. Donc ça veut dire que ce cristal, dans notre cas, va rester fixe. Donc pour pouvoir décrire complètement la structure cristalline, on voit qu'il faut faire varier l'énergie du rayonnement, du photon X. Donc c'est ce qu'on fait, on va travailler avec un faisceau dit blanc qui, vous voyez, a une gamme d'énergie ici compris entre 5 et 24 kiloélectronvolts. Donc on fait varier l'énergie du rayonnement. Et on obtient ce genre de cliché, donc ça c'est des expériences qu'on a fait au synchrotron de Berkeley. On a des taches, d'accord, qu'on appelle, qui correspondent à la diffraction, au signal de diffraction sur le cristal d'indigo ici dans la silicalite. Donc on va voir ce qu'on a tiré de ces informations-là. Donc ça, c'est la diffraction de la Way d'une part. Et puis, comme on avait réussi à obtenir également des poudres qui avaient une couleur très, très intéressante, on a aussi essayé de travailler avec ce matériau sous forme de poudre. Et donc ici, on voit que finalement, comme on va travailler avec un faisceau large, ce faisceau va intercepter un très grand nombre de cristaux. Donc on a en fait ici tous les angles θ qui vont être décrits. Donc finalement, on peut travailler avec un faisceau dit monochromatique. Ici, on a travaillé avec un faisceau, donc une seule énergie, 16 kiloélectronvolts. Et on va obtenir ce genre de signaux. Donc c'est normalement des anneaux continus, j'en ai mis qu'un arc, mais c'est ce qu'on appelle des anneaux de Debye-Scherrer. Et on voit que la position de ces anneaux va varier. Donc ici, on a pu suivre que la zéolite était donc dans une symétrie monoclinique quand elle n'avait pas d'indigo à l'intérieur, et elle arrivait dans une structure plus symétrique, orthorhombique. Vous voyez ici, on a ce signal-là qui est disparu, qui montre la présence de l'indigo à l'intérieur de cette structure. Donc, sur notre indigo dans la silicalite, on a donc justement d'abord pris nos monocristaux et fait des expériences de diffraction de la Way. Donc on retrouve ici un cliché, hein, donc il y a un zoom ici, vous voyez, on a des tâches. Et puis, ben, suivant la forme de la boîte qu'on utilise, on peut arriver à expliquer la position de ces tâches. Comme on a un micro-faisceau, on peut balayer finalement le monocristal. Donc on voit ici le front, la frontière en fait du monocristal qu'on devine, et on a balayé en fait on est venu mettre le faisceau de rayons X et balayer tout le cristal avec ce faisceau-là. Et à chaque fois, on a un cliché comme ça. On l'interprète et on peut suivre comme ça comment évolue le fameux angle alpha ici qui va nous dire soit on est dans une maille orthorhombique, l'indigo est bien à l'intérieur de ma silicalite, ou je suis dans une maille monoclinique, je n'ai pas réussi à doper, finalement, à introduire mon indigo dans ma silicalite. Donc on voit que ben, finalement, on a quelque chose qui est quand même très hétérogène au final, qui nous a permis de mieux comprendre ce qui se passait ensuite. Mais on voit que tous les domaines en rouge ici correspondent bien donc à un angle de 90 degrés, donc à des domaines orthorhombiques où on avait été capable de faire rentrer l'indigo dans la structure. Donc ensuite, le travail de Catherine ces dernières années, c'est non seulement de comprendre la position de ces positions, de ces tâches de diffraction, mais aussi leur intensité. Et en faisant donc des rapports d'intensité, eh ben, elle a pu aller un peu plus loin sur finalement comprendre justement les symétries qui existait ensuite dans cet indigo, dans la silicalite. Et finalement, ça permet de faire le choix d'un groupe d'espace, donc ici PNMA, qui va permettre ensuite de donner énormément d'informations et gagner beaucoup de temps dans la détermination justement de la structure cristalline. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en diffraction de la Way sur monocristal. On a aussi travaillé sur nos poudres et on a justement pu utiliser toutes les informations qu'on avait comprises sur les monocristaux. Donc on a compris qu'il fallait ben, finalement qu'on comprenne nos signaux en considérant qu'on avait un mélange de phases, monoclinique, orthorhombique. On connaît le groupe d'espace très finement, la boîte dans laquelle on peut travailler. On a d'abord dans un premier temps considéré qu'on avait la zéolite, hein, la silicalite, qui était comme une charpente vide, sans indigo. Et lorsqu'on modélise notre signal sans indigo, ben on voit qu'effectivement, eh ben on a tout un résidu. Hein, donc on a ce qu'on appelle, hein, c'est ce qu'on a fait ici, une carte de densité électronique différence. Donc tout ce qui est en vert ici, ben ça montre qu'on a tout un signal qui n'est pas expliqué et qui nous montre bien qu'effectivement, ben il faut qu'on mette, on a bien de l'indigo coincé dans les canaux. Donc cet indigo, ensuite, eh ben on peut le considérer comme un objet complètement rigide. Une molécule, hein, donc on l'a représentée ici en rouge et en noir. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va le faire bouger, donc juste en rotation donc, et en translation, dans les canaux de la zéolite. On calcule un diagramme de poudre donc, complètement modélisé. On va le comparer au diagramme observé. Et puis on va s'arrêter. Donc on génère comme ça un très grand nombre de structures d'essais. Et on s'arrête quand on a un bon accord entre le calcul et l'observation. Et on a pu montrer que ben, la molécule indigo, en fait, vous voyez, venait se coincer en fait, à l'intersection des canaux de la zéolite, qui explique en fait, que ben, déjà elle bloque la zéolite dans une structure très symétrique, et qu'ensuite cette molécule d'indigo, eh ben, elle va être protégée, en particulier sa double liaison, hein, ne peut plus être cassée par attaque chimique, la lumière, etc. Et que finalement, comme dans le cas du bleu Maya, on arrive à expliquer une stabilité chimique particulière de ce pigment hybride, dû à des contraintes en fait, géométriques et stériques très complexes entre l'indigo, si vous voulez, qui est un peu confiné, hein, coincé dans les canaux de la zéolite. Donc voilà, ça c'était mon premier exemple pour vous montrer que ben, on a réussi, même dans le cas d'un pigment relativement complexe, hybride, hein, avec une partie organique, une partie inorganique, de structures inconnues, à proposer quand même un modèle structural satisfaisant, en combinant, hein, en jouant sur les techniques de diffraction dont on a à disposition et suivant si on arrive à mettre en forme le matériel, soit sous forme d'un monocristal, soit sous forme de poudre. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait quand la matière est plus ordonnée, hein, quand on n'a plus un cristal, quand on dit que l'ordre à longue distance évidemment va disparaître, ou lorsqu'on a en tout cas des mélanges de cristaux et de non-cristaux. Donc ça, c'est juste cet exemple-là pour vous montrer que c'est quand même relativement fréquent. Alors j'aurais pu prendre d'autres exemples, par exemple dans la peinture. Hein. J'ai continué à prendre des exemples dans les cosmétiques, mais il y a d'autres exemples qui peuvent être fréquemment rencontrés dans la peinture. Donc de cas de matériaux qui sont mal ou pas du tout cristallisés et où finalement bah, on n'a pas de signal de diffraction caractéristique et donc on ne peut plus travailler comme on le fait avec les techniques de cristallographie classique que je viens de vous présenter. Donc, j'ai pris un exemple dans le patrimoine culturel, encore hein, donc, un exemple des cosmétiques égyptiens. Donc, ça, c'est donc des deux diagrammes de poudre, un bleu et un rouge, qui correspondent à deux poudres cosmétiques qui ont été prélevées dans un ensemble comme ça, d'étuis en roseau, donc, qui sont conservés au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Donc, ces étuis en roseau, donc là, il y avait un exemple de quatre étuis, qui étaient, donc, ils étaient évidés. Et en fait, ensuite rempli de poudre cosmétique avec parfois des inscriptions qui donnaient des informations sur la qualité de la poudre, etc. Donc, on avait été autorisé à faire donc des micro-prélèvements dans ces étuis. Et on a donc regardé le signal de diffraction donc de deux de ces étuis, un rouge et donc un qui apparaît ici en bleu. Alors, on voit que dans le cas de la poudre rouge, on est à peu près dans le cas, on va dire, précédent. On a un joli diagramme de diffraction sur poudre avec un fond relativement plat et puis des pics de Bragg. Hein, on sait identifier les cristaux, etc. On sait quantifier le mélange. On voit que dans le cas de l'échantillon bleu, les choses sont un peu différentes parce qu'effectivement, on voit bien qu'on a des pics de Bragg, d'ailleurs à la même position ou à des positions différentes du diagramme rouge. Hein. Mais on a surtout tout un fond. Alors, j'ai essayé de matérialiser de façon pas très jolie avec cette ligne noire-là, mais pour vous montrer qu'il y a toute une modulation du fond continu. Si on continue à considérer qu'on a que des cristaux, bah, finalement, on perd toute cette information qu'il y a dans le bruit de fond. On va jeter, si vous voulez, toute l'information qui montre qu'on n'a pas que des cristaux, qu'on a sûrement une matière qui est désorganisée, désordonnée et qui nous échappe complètement. Donc ça, c'était un exemple dans le patrimoine culturel. Pour revenir à la pharmacie, je vais vous montrer un exemple aussi plus tard. Actuellement, dans la recherche pharmaceutique, évidemment, normalement, les médicaments, je l'ai dit, hein, sont normalement des cristaux, parce que c'est des formes très stables. Mais de plus en plus, on essaye d'aller vers des formes plus amorphes. Hein. Alors, ces formes amorphes ayant l'avantage d'être souvent plus solubles, donc d'avoir une biodisponibilité plus importante. Et donc, l'idée, c'est quand même d'arriver à comprendre la structure de ces matières amorphes. Hein. Et pour les obtenir, la plupart du temps, on va prendre une phase cristalline et on va la stresser, enfin la déformer sous contrainte mécanique, la plupart du temps dans des broyeurs, hein, donc sous broyage ou sous pression, pour finalement essayer de mettre du désordre et gagner dans la solubilité de ces formes-là. Donc, juste pour faire un petit point qu'on voit comment on va ensuite enchaîner. Alors, on l'a bien compris, je pense, jusqu'à présent. Donc, c'est un diagramme de diffraction sur poudre, intensité diffractée. Et puis ici, on a un angle, l'angle de Bragg ou un vecteur de diffusion. D'accord ? Jusqu'à présent, ce dont je vous ai parlé, c'est tous les pics bleus là. D'accord ? On appelle ça les pics de Bragg. C'est les pics de diffraction. D'accord ? Donc, dès qu'on a un cristal, ordre à longue distance, on a ces pics de Bragg là qui apparaissent. Ce qu'on oublie complètement, hein, c'est ce que j'ai mis sur les cosmétiques, c'est ce bruit de fond, d'accord ? Et ce bruit de fond, en particulier quand il est modulé, hein, c'est le cas ici rouge, il est très intéressant puisque finalement, il va montrer justement tous les écarts à la structure moyenne. Dès qu'il va y avoir un petit écart, des distances interatomiques qui font un petit peu varier la position d'équilibre moyenne, eh ben, on va avoir ces modulations qui vont apparaître et qui nous renseignent sur l'organisation du composé. Donc, ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est ne pas jeter tout ça à la poubelle, mais d'essayer de garder, hein, c'est ce que j'ai mis ici, le signal de diffusion totale. Hein, on parle de diffraction quand on a un cristal, on va parler de diffusion de manière générale. Donc, on va essayer de garder l'ensemble, les pics de Bragg plus tout le fond, la diffusion diffuse. Et ça, on peut ensuite le traiter avec une technique qui est assez, qui a été longtemps, on va dire, utilisé pour regarder plutôt des verres ou des amorphes et qui, ces dernières années, revient pour regarder beaucoup des composés nanocristallisés et ce qu'on appelle l'analyse de la fonction de distribution de paires, puisqu'en fait ici, eh ben, dès qu'on a on va avoir des paires d'atomes hein, qui vont être corrélées et qui vont donner donc, lieu à ces modulations. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on arrive à calculer cette fonction de distribution de paires, hein. Il y a plein d'articles qui décrivent ça très bien, on pourra en rediscuter après, je vais juste vous montrer des exemples. Donc justement, j'ai pris un exemple dans la pharmacie, donc dans le cas de solides organiques moléculaires, hein, comme je vous l'ai dit, on essaye de, sous contrainte mécanique, sortir des formes cristallines pour aller vers des formes plus solubles et plus biodisponibles. Donc actuellement, on travaille, donc c'est le travail de thèse de William Pagnoud dans le cadre d'un projet Mifasol. Il regarde pour l'instant un sucre, hein, donc c'est un excipient très, très utilisé en pharmacie, le tréhalose dans sa forme cristalline dite alpha. Donc ça, c'est la forme cristalline, c'est le cristal. Donc vous voyez, pic de Bragg, très, très fin, très, très bonne qualité cristalline. Et on broie hein, ce tréhalose dans un broyeur planétaire hein, avec des billes. Et on regarde ce qui se passe, les transformations structurales en fonction du temps de broyage. Donc on voit qu'effectivement, bah, on a des pics de Bragg qui vont s'élargir de plus en plus. Et puis on voit qu'il y a un fond, effectivement, qui pousse, hein, modulé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et on arrive jusque-là. C'est-à-dire qu'on n'a plus que le fond, on n'a plus de pic de Bragg, et on veut malgré tout arriver à comprendre et à suivre les transformations structurales de ce composé, puisque c'est important ensuite de comprendre c'est comment il va s'amorphiser, et ensuite évidemment sa stabilité. Est-ce qu'il va s'amorphiser avec une réduction de plus en plus importante de la taille des cristaux? Est-ce qu'on va former un ver moléculaire, c'est-à-dire on va finalement désordonner de plus en plus le cristal, etc. Donc, autant donc pour le, on voit pour le, les forts temps de broyage, la diffraction ne nous renseigne plus sur rien. Autant si on calcule ce qu'on appelle donc la PDF, donc c'est ce que je représente ici. Donc la PDF, souvent la note G2R. Hein, donc là, j'ai mis, il y a ici, et puis en abscisse ici, on a finalement une distance, puisque ça va être finalement cette PDF, une sorte d'histogramme hein, des distances interactomiques présentes dans le composé. Donc là, j'ai tracé entre 0 et 20 angstroms. Hein, et là, on regarde les distances plus courtes de 1 à 8 angstroms. D'accord ? Donc si on regarde là, bah, on voit typiquement qu'on a ici un pic très, très important à 1,6 angstroms bah, qui va correspondre, hein, on regarde un solide moléculaire, à toutes les distances carbone-carbone qui sont présentes dans le composé. Donc on voit que la PDF, eh ben, on garde l'information. Même pour des formes très, très amorphes, hein, donc le broyé 45 minutes ici qui apparaît en rose, bah on voit qu'on n'a plus, on a quand même du signal. On n'est plus dans le cas de la diffraction où tous les pics avaient disparu. Donc on voit que dans le cas du cristal, donc c'est le noir, bah on garde bien un ordre à longue distance, hein, on voit que les pics continuent et ils continueraient encore longtemps. Et puis de plus en plus, eh ben, on a effectivement, on va dire, le domaine de cohérence hein, qui va devenir de plus en plus court. Donc on voit qu'on a un bon outil avec cette analyse PDF pour décrire en continu ce qui va se passer du cristal jusqu'à la forme amorphe correspondante. D'accord ? Alors, on comprend maintenant, on commence à comprendre en tout cas assez bien d'un point de vue qualitatif ce qui se passe. Hein. Donc on voit qu'ici, on peut, distinguer un domaine intramoléculaire, donc ce qui va se passer à l'intérieur de la molécule. On voit que jusqu'à à peu près 4,5 angstroms, toutes les PDF sont superposées. Et ça, ça correspond, je vous ai mis ici la molécule de tréhalose là, au fait que, ben, effectivement, dans les cycles ici, on a bien cette distance de 4,5 angstroms qui apparaît et que ce cycle est très rigide, hein, très solide, et que le broyage ne va pas l'affecter. Par contre, on voit qu'à partir de 4,5 et puis ensuite, eh ben, on a des PDF qui évoluent en fonction du temps de broyage et on arrive à relier ça ben, au fait qu'on va, donc on a une certaine flexibilité de la molécule qui va un peu se déformer, hein, ça va faire un peu un effet papillon entre les ailes là. Et puis on a aussi un empilement ensuite de ces molécules qui va différer en fonction du stress mécanique qu'elle a subi. Alors, ce qu'on aimerait arriver à faire, mais c'est donc le travail de thèse de William en collaboration avec en particulier Juan Rodriguez Carjaval à l'ILL, c'est d'arriver à une analyse plus quantitative et puis maintenant modéliser ces signaux, comme on le fait avec des signaux de diffraction classiques, pour arriver à comprendre mieux les choses. Le petit souci, c'est que pour l'instant, les logiciels qui existent ne permettent pas, comme c'est le cas pour la diffraction, comme je vous ai montré tout à l'heure pour l'indigo, de décrire cet objet-là comme un corps rigide. Et donc, pour l'instant, on n'arrive pas à aller plus loin dans la modélisation, mais on espère arriver à le faire. Et puis, je vais vous montrer que pour les composés inorganiques, on va un peu plus loin maintenant dans la modélisation. Donc, je vais arriver à mon dernier exemple, où je vais justement vous montrer, donc là, je vous ai finalement montré un exemple où on avait perdu l'aspect cristal, finalement, hein. Maintenant, ce que je vais essayer de vous montrer, donc c'est un exemple que j'ai pris sur un travail qui a été fait récemment, en particulier par Louis Samin, hein, au Centre européen d'archéométrie de Liège, dans le cadre de sa thèse, donc sur le bleu de Prusse, d'accord, et sur, encore une fois, la reproduction de cette bleu de Prusse. Alors, on va voir que là, on va être dans un cas de mélange très complexe, avec effectivement le pigment bleu de Prusse relativement bien cristallisé, Et puis d'autres phases qu'on n'avait pas identifiées jusqu'à présent, puisque justement elles n'étaient pas cristallisées et qu'en diffraction, on n'arrivait pas à les détecter. Donc je vais vous montrer qu'avant d'arriver à séparer et comprendre la partie cristalline et la partie cristalline, eh ben, on a besoin de sélectivité. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va d'abord faire appel à une technique de diffraction qui va nous permettre de séparer finalement les signaux, hein, et ensuite de les modéliser. Donc cet outil sélectif, il existe, hein, et il se développe fortement depuis, on va dire, 5 ans maintenant à peu près. C'est ce qu'on appelle la microtomographie de diffraction-diffusion. Donc diffraction-diffusion des rayons X, on connaît, je viens de vous en parler. Ce qui est nouveau maintenant, ça va être dans la manière dont on va enregistrer finalement ces données de diffraction et de diffusion. Donc je vous ai mis un petit schéma ici de la technique. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, donc ici on a le faisceau de rayons X qui arrive, hein. Donc c'est des techniques qui pour l'instant existent essentiellement sur ligne synchrotron, mais on verra qu'on commence à arriver à le faire en laboratoire aussi. On a ici un porte-échantillon et on va mettre l'échantillon ici. Le gros avantage, on va le voir, c'est que l'échantillon, ça peut être un fragment. Pas du tout mis en forme, un fragment, un micro-prélément d'une peinture. On va le voir là, un pigment en fait ancien qu'on a reproduit. Il n'a pas besoin d'être coupé, enrobé, mis en forme. Donc on va le mettre ici, alors la plupart du temps, dans un petit capillaire, dans un petit cylindre en verre. On va venir le coincer dans ce cylindre. Et en fait, ce qui est nouveau, c'est qu'au lieu de le laisser fixe et puis de prendre ici avec une caméra les données de diffraction, on va faire bouger ce fragment dans le faisceau de rayons X, à la fois en translation et en rotation. On va faire comme si, vous voulez, on allait prendre plein de clichés de diffraction à des orientations différentes. Ça va nous permettre, je vais le montrer ici, de reconstruire des images structurales qui vont être sélectives et propres à chaque phase, qu'elle soit cette phase cristallisée ou non. Donc ça, c'est un exemple, un cas d'étude hein, qui avait été fait par une équipe donc à l'ESRF, des gens de l'Institut Niel et puis Philippe qui faisait aussi partie des auteurs. Donc en 2008, hein, donc c'est un cas d'étude sur un mélange de la calcédoine avec certains oxydes de fer, hématite, on voit ici, en poudre. Donc ce mélange calcédoine-oxyde de fer, on en avait rempli donc un petit cylindre. Et puis donc on a pris comme ça, ils ont pris un très grand nombre d'images de diffraction, typiquement une expérience, alors on appelle ça souvent de la diff-tomo, pour diffraction par tomographie, on enregistre jusqu'à 4000, 5000, 10000 images de diffraction, d'accord, avec la caméra 2D. Et ensuite, ces images, on les traite, alors je vous passe le traitement, hein, et on arrive finalement à sélectionner des régions d'intérêt, un pic de bras caractéristique de la phase qu'on recherche. Donc c'est ce qui est illustré ici. Ça, c'est une image, hein, donc qui localise les différents cristaux, les différentes phases cristallines qui sont présentes dans le capillaire. Alors là, on voit qu'effectivement, bah, le cylindre, hein, c'est comme si on en avait fait, si vous voulez, ensuite une coupe, comme une coupe virtuelle. Donc on va avoir le cylindre qui apparaît ici comme un cercle, et à l'intérieur, on voit les grains de poudre qui sont coincés. D'accord ? Donc ça, c'est l'ensemble de l'image, de toute la poudre. Et ensuite, on voit qu'on peut sélectionner un constituant ici de notre échantillon. Donc là, on peut reconstituer une image du capillaire. On peut aller reconstituer juste l'image correspondant à la calcédoine, à l'hématite, à un autre mélange d'oxyde de fer, etc. D'accord ? Donc on a une imagerie vraiment. Alors ici, c'est seulement à deux dimensions. On a regardé juste ce qui se passait à une certaine hauteur de ce capillaire. Mais on verra qu'on peut, si on fait plein de coupes comme ça, arriver à reconstituer même un volume. Une fois qu'on a fait ça, et c'est toute la puissance de la technique, c'est qu'on peut, une fois qu'on a sélectionné une phase qui nous intéressait, on peut arriver à extraire son diagramme de diffraction ou de diffusion comme si cette phase était toute seule. On va remonter au diagramme comme de la phase pure. Donc là, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer. Bon, c'est pas très joli, je m'excuse. Donc ça, c'est lorsqu'on garde tout l'ensemble, hein, le capillaire plus tous les oxydes de fer à l'intérieur. Le diagramme de poudre, c'est le noir. On voit qu'on arrive bien à le calculer, hein, en considérant qu'on a des cristaux connus en rouge ici. Si on s'intéresse juste à cette phase-là, donc essentiellement très riche en hématite, eh ben on voit qu'on va être capable d'extraire son signal comme si l'hématite était toute seule, en fait, dans le capillaire, d'accord? Donc ici, hein, pour vous rendre compte, l'hématite ici, donc, qui est indiquée par les flèches noires, c'était tous les pics qui correspondent ici et qui sont vraiment très mineurs. Ici, on voit qu'on, finalement, c'est comme si on faisait un zoom sur l'hématite, et voilà, les pics noirs sont ici. Et par contre, le pic très intense ici, indiqué par la flèche bleue, il arrive à ce niveau-là d'intensité. Donc on voit qu'on a vraiment une technique très sélective. Et ici, dans l'article, ils disent qu'on peut aller jusqu'à détecter des phases qui sont présentes à 0,1% massique, ce qui est très bien. Et les techniques de diffraction, normalement, sont plutôt à une limite de quelques pourcents. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est sur un exemple de C60, donc un fulrène dont a parlé Gérard. Donc, c'est une autre personne de l'équipe qui a regardé ça. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est juste pour vous montrer que si on est capable, hein, de reconstituer comme ça un très grand nombre de coupes, d'accord, dans l'échantillon, dans le fragment. Alors après, pareil, hein, ils ont identifié, donc là, c'est des phases de carbone qui sont transformées sous haute pression, haute température. Ils ont réussi à extraire le fait qu'il y ait des phases cristallines ou pas. Mais surtout, en reconstituant, en combinant toutes ces coupes, eh ben, ils ont réussi à, finalement, proposer une reconstitution de l'ensemble du volume du fragment. D'accord ? Avec, hein, chaque zone colorée correspondant à une phase, un cristal ou une phase amorphe présente dans ce fragment-là. Donc, je vais venir au bleu de Prusse pour juste vous montrer nous, comment on a mis en œuvre cette technique sélective de diffraction par tomographie. Donc, quelques mots sur le bleu de Prusse très rapidement. Donc, ça a été essentiellement le travail de thèse de Louise Samin, hein, qui a travaillé au Centre européen d'archéométrie avec David Strivet. Donc, le bleu de Prusse, je pense que vous le savez, c'est un pigment bleu synthétique, un ferrocyanure ferrique. Donc, j'ai mis sa formule chimique idéale ici. Sa structure cristalline, alors ça c'est la structure idéale, hein, on va dire, parce qu'en fait les choses sont un peu plus complexes, il y a tout un jeu de lacunes en fait, hein. Mais si on regarde la structure cristalline idéale, c'est ça. Donc c'est pas très compliqué, puisque finalement ça c'est la structure du sel NaCl. La seule chose c'est qu'ici, on a en fait, hein, des octaèdres, hein, donc un atome de fer, fer 2 ou fer 3, qui est donc mis dans un octaèdre, dans un polyèdre, qui au sommet on trouve soit du carbone, soit de l'azote. D'accord ? Donc ce pigment bleu, il a été découvert accidentellement en 1704. Il est devenu très populaire. Hein. Les artistes l'ont largement utilisé parce qu'il permettait d'avoir un pigment, un bleu très très intense. Mais très vite, il a été aussi décrié parce qu'il montre des problèmes de verdissement, en particulier lorsqu'il est exposé à la lumière ou mélangé avec des pigments blancs. Donc là, j'ai mis un certain nombre d'extraits de textes. Hein. Donc effectivement, par exemple, hein, Riffaut, en 1850, dit « C'est un très beau sel, mais qui s'altère à l'air et donne avec le temps une couleur verte. Le bleu de Prusse devient verdâtre, mélangé à du blanc de plomb. » Certains disent qu'effectivement, on ne reconnaît plus la nature si on l'a mis à côté de verre. Hein. Enfin, donc il y a un certain nombre déjà, très tôt, hein, on va dire, d'auteurs, hein, qui effectivement décrit l'altération rapide de ce pigment. Donc justement, Louise, une partie de son travail de thèse, a essayé d'essayer de mieux comprendre pourquoi ce pigment s'altérait. Donc elle est allée lire les recettes anciennes pour essayer de reproduire des bleus de Prusse à l'ancienne, au XVIIIe siècle, puisqu'après, ensuite, il y a eu une amélioration dans la recette qui fait que le pigment est devenu plus stable. Et ces recettes, alors on voit qu'elles sont relativement empiriques, mais elle a donc réussi à les traduire chimiquement pour arriver à resynthétiser du bleu de Prusse. Alors, je ne lis pas lire toute la recette, mais vous voyez, donc il faut prendre de la potasse, du sang de bœuf desséché, pulvérisé. D'autre part, il faut prendre du vitriol de Mars, en faire une sorte de solution avec de la lin. On lance le sang de bœuf dans cette solution. On a effectivement un pigment bleu qui va précipiter, qu'on peut ou pas laver avec de l'acide. Donc, Louise a fait tout ça. Elle a eu beaucoup de mal, mais elle a réussi à reproduire donc du bleu de Prusse, mais avec parfois des succès plus ou moins grands. On voit, hein, donc en particulier, il y a une grande variabilité dans la couleur des pigments obtenus, et on va voir, il y a aussi des degrés de cristallinité du pigment obtenu très très différents. Donc ça, c'est juste un spectre de réflectance UV visible. Donc elle a ici qui montre ici 5 essais, on va dire, reproduction de bleu de Prusse. Donc on voit qu'il y en a beaucoup qui sont centrés, hein, et qui sont bien effectivement bleus, mais il y en a un là, le D2, la courbe en vert, je vais en reparler après, qui vire franchement vers le brun. Alors, Louise a essayé déjà de regarder, hein, en diffraction de rayons X, on va dire classique, ces échantillons. Alors, effectivement, on voit que si on prend certaines recettes ou des bleus de Prusse commerciaux, on retrouve nos pics de Bragg, des bons cristaux. Mais effectivement, dans le cas, encore une fois, ici, de l'échantillon des deux, il n'y a plus rien, il n'y a plus de signal, il n'y a plus de pics de Bragg. Donc, finalement, on a essayé d'abord de calculer les PDF, donc les fonctions de distribution de paires que je vous ai présentées tout à l'heure, pour l'ensemble de ces échantillons, et on a vu que on retrouvait quand même de l'information, et l'échantillon des deux, effectivement, on voit qu'on a bien un signal, mais qui reste à interpréter. Et pour l'interpréter, la grande difficulté, c'était d'identifier, en tout cas d'une certaine manière, ce qu'il y avait dans ces composés-là. On sait qu'il y a du bleu de Prusse, mais on voit qu'effectivement, alors le bleu de Prusse, un bleu de Prusse commercial, il va se donner ce signal-là. On voit que dans les échantillons, il y a probablement autre chose, un bleu de Prusse nanocristallisé, autre chose. Donc, on a essayé de mieux comprendre ces mélanges. Et pour ça, on est allé faire effectivement de la microtomographie par diffraction. Donc, on a fait des expériences à l'ESRF sur la ligne CRG-BM2. Donc, on a, comme je vous le disais, on a le petit cylindre ici en vert et on a coincé un morceau d'un bleu de Prusse reproduit avec une recette du XVIIIe siècle. Vous voyez qu'il y a une couleur un peu étonnante quand même. On l'a juste coincé le fragment. Et ensuite, donc, on a le faisceau de rayon X qui arrive là. L'échantillon est ici. On a la caméra ici pour récupérer le signal de diffraction. Et on fait bouger le fragment en translation et en rotation. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, on peut ensuite reconstituer des images caractéristiques de différents constituants du mélange. Donc, on arrive bien à extraire le capillaire. Tout va bien, il est bien long, rond, etc. On voit qu'on a un bleu de Prusse qui est plutôt bien cristallisé, qui est présent. On a aussi en vert ici, on l'a sélectionné ici, une phase mineure qui apparaît. Pour l'instant, on n'a toujours pas identifié, qui est probablement la trace ou l'impureté d'un réactif de départ. Et puis, chose très intéressante, on voit que très intimement mélangé, en tout cas à l'échelle du faisceau, avec le bleu de Prusse, on a une phase nanocristallisée avec ce signal-là qui n'avait pas été identifié jusqu'à présent. Donc, en regardant juste le signal, on a sélectionné juste le signal de cette phase nanocristallisée, on a quand même essayé d'interroger les bases de données pour essayer de voir qu'effectivement, il y avait quand même la position, en tout cas la modulation, les maximums de modulation qui étaient bien expliqués par ce composé qui s'appelle la ferrihydrite, donc c'est un oxyde de fer qui est de couleur orange. Et c'est vrai qu'en regardant de nouveau l'échantillon de bleu de Prusse, donc le fameux D2, là, on voit qu'on a effectivement un bleu de Prusse avec la couleur très caractéristique, très jolie, mais on a également plein de petits points orange qui sont bien effectivement compatibles avec la présence de cette ferrihydrite. Donc ça nous a permis de revenir à nos PDF et d'arriver à modéliser finalement ces fonctions de distribution de paires en considérant cette fois qu'on avait de la ferrihydrite, un mélange de bleu de Prusse et parfois d'une autre phase, en particulier quand les échantillons n'étaient pas lavés à l'acide, il reste trace d'une phase à base d'aluminium due à l'ajout d'alun dans les recettes anciennes. Donc on voit que maintenant, on a un très bon accord avec nos PDF et nos PDF calculés et on arrive comme ça à décrire le mélange, même dans le cas où on n'a plus seulement un ensemble de cristaux. Je vais finir là-dessus et Louise a ensuite regardé comment ces bleus de Prusse, alors le bleu de Prusse moderne d'un côté et le bleu de Prusse ancien, justement, évoluaient sous vieillissement accéléré à la lumière. Donc là, c'est la partie au centre qui est non exposée. Et ensuite, de part et d'autre, c'est lorsque ça a été exposé très fortement et pendant longtemps sous une lampe pour faire du vieillissement accéléré. Elle a ensuite fait des mesures colométriques et elle a montré, en partie, on retrouve l'échantillon des deux, qu'effectivement, les bleus de Prusse qui verdissaient le plus rapidement et de manière le plus prononcée, c'était bien ceux qui présentaient une forte teneur en ferrihydrite. Donc on a pu comme ça arriver à donner un nouvel éclairage, un nouvel élément de compréhension avec cette présence de ferrihydrite pour expliquer le verdissement de ces bleus Prusse anciens. Donc je voulais juste dire, parce que c'est tout neuf, ça fait 15 jours qu'on a eu ces résultats-là, que je vous ai dit, la microtomographie en diffraction, on l'a fait maintenant de manière assez facile, même si ça reste une expérience un peu longue en temps, sur synchrotron. Mais ce qu'on a essayé de faire à l'Institut, c'est d'essayer de voir si un diffractomètre de laboratoire, légèrement adapté, pouvait pas aussi permettre d'acquérir ces données. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu le montage, hein. Alors, on a ici le faisceau de rayons X qui arrive ici. Donc, on a un faisceau qui est focalisé, enfin, à 100 microns, donc ça reste encore large, mais donc il est focalisé. On a ici bricolé une sorte de petit goniomètre, hein, pour arriver à orienter l'échantillon. Et le fragment, vous voyez ici, alors c'est un échantillon, c'est pareil, c'est un échantillon test, hein, c'est l'équipe du laboratoire qui regarde plus les fulrènes, le C60, qui connaît bien cet échantillon-là, qui sert maintenant un peu de test dans les expériences de diphtomo, qui est coincé donc ici dans son capillaire et qu'on voit là. Donc on voit que on a comparé finalement les qualités des données qu'on pouvait obtenir en laboratoire avec un certain nombre de jeux de données qui avaient été pris. Donc ici, ça a été pris sur synchrotron avec un faisceau volontairement élargi. Donc 200 microns avec des pads 250 microns. Ici avec un faisceau un petit peu plus petit et puis en déplaçant l'échantillon avec des pads plus petits. Et puis ici, sur une ligne ID22 qui permet d'avoir un faisceau tout petit. Hein, voyez, on passe à des faisceaux de l'ordre de 2 microns. Donc ça, c'est le jeu de données qu'on avait obtenu sur synchrotron. Et voilà ce qu'on arrive à faire avec nos diffractomètres de laboratoire. Donc l'image, la couleur sont pas très, pas très bien choisies. Mais en tout cas, on voit qu'on arrive bien à reproduire le capillaire. Alors ça, c'est une petite tige en verre en fait, qu'on voit aussi ici, qui permet en fait de coincer l'échantillon dans le capillaire. Et puis on voit qu'on retrouve bien la forme. Et puis on arrive bien à extraire, je ne les ai pas mis là, les signaux. Donc voilà, ça voudra dire que finalement, cette technique va devenir accessible et de manière plus facile et disponible ensuite pour la communauté. Donc voilà, je vais finir en vous disant que quand on a des matériaux finalement concernés qui restent des mélanges de cristaux, j'ai essayé de vous montrer qu'on pouvait faire évoluer et combiner les techniques de diffraction qui sont bien établies pour arriver à donner quand même une description structurale, même dans le cas où on a des pigments relativement complexes, et là c'était le cas d'un pigment hybride. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des poudres non cristallisées qui sont hétérogènes? On voit qu'on avait on pouvait sélectionner les signaux des différentes phases par microtomographie de diffraction de diffusion, et dans le cas du bleu de Prusse. Et une fois qu'on a ensuite utilisé la sélectivité de la méthode pour remonter au signal de la phase pure, on peut ensuite la modéliser soit par affinement de Rydwell, soit par analyse PDF, pourra caractériser à la fois la structure moyenne et la structure locale, tous les écarts à la structure moyenne des composés. Donc voilà, les matériaux du patrimoine ou les composés pharmaceutiques sont nos modèles, et finalement, pour répondre à la problématique posée, on voit qu'ils incitent quand même le développement de nouveaux instruments, développement de nouveaux méthodologies analytiques, et que finalement, il y a un peu un aller-retour constant en matériaux-méthodes qui est très important, et toute cette diffraction par tomographie intéresse beaucoup les gens qui maintenant synthétisent des nano-objets de plus en plus complexes, puisque finalement, il y a des outils de caractérisation qui restent encore à inventer, en tout cas à adapter. Je remercie évidemment tous les gens qui ont contribué à ce travail, donc tous les gens thèses ou post-doctorants actuellement au laboratoire ou qui ont été au laboratoire, donc mes collègues de l'Institut Néel, Louis Samin, Philippe Balter et les gens du LAMS, les gens de l'IPREM qui avaient aussi beaucoup travaillé avec nous sur le projet Bleu Maya, les collègues de l'ESRF et puis bien sûr tous les lignes synchrotron, ESRF, Cristal, Soleil. Voilà. Je vous remercie.